une coulemelle, j'ai fait une ombrelle, et d'un champignon tout rond, j'ai fait un chapeau melon. J'ai mis ma collerette, mon habit de fête, pour aller danser un peu chez le roi des elfes bleus. Champignon marron, mon champignon, si bon mon champignon.
Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences.
Une belle girole qui faisait la folle dit, je me marie demain, un bolet voudrait ma main. Tête de girole, tête, tête folle, vous n'avez ni bras ni main, vous n'avez qu'un pied très fin. Champignon marron, mon champignon, si bon mon champignon, nous danserons sous les liserons.
Chers auditeurs de Tranche de Vie, près de Périgueux, à la sortie de Périgueux en direction d'Angoulême, vous avez sans doute noté la présence de cavernes, tout de suite après la sortie de Périgueux, qui sont d'anciennes carrières. Dans ces carrières, une entreprise s'est installée depuis très longtemps et qui porte le nom aujourd'hui de champignonnière de Chancelade. Depuis 1870, on cultive le champignon dans cette zone. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être en présence de Monsieur Mathurin Lemasson, qui est le gérant de cette entreprise et qui a accepté de nous parler de cette culture très particulière du champignon de Paris. Mathurin, merci beaucoup de nous recevoir et merci de nous apprendre beaucoup de choses sur le champignon de Paris. Est-ce que vous avez toujours exercé ce métier de directeur d'entreprise de production de champignons ?
Je ne connais la culture du champignon que depuis 1990. Avant 1990, j'ai exercé d'autres activités dans l'agriculture qui étaient plus en rapport avec la grande culture et la culture de céréales essentiellement, en travaillant dans un métier qu'on appelle la procollecte, c'est-à-dire la collecte de céréales d'une part, et la vente d'engrais et de produits phytosanitaires aux agriculteurs. Et j'ai exercé cette activité pendant environ un peu plus de 20 ans, avant de connaître le champignon.
Et cette activité, vous l'exerciez dans la région ou dans une autre région de France ou de l'étranger ?
Je l'ai exercé dans le sud-ouest, dans un département tout à fait du sud des Pyrénées-Atlantiques, et dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et j'ai commencé à travailler dans le champignon en Gironde. Mais j'ai également exercé mes activités dans le centre de la France, dans la région de Blois et de Vendôme.
Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans la culture du champignon de Paris qui vous a attiré vers cette activité ? Est-ce qu'il y a un événement ou bien un contact ou une rencontre qui ont déterminé votre orientation ?
Ah, c'est pas un contact ni une rencontre qui ont déterminé mon orientation, c'est-à-dire que je recherchais mon entreprise. L'entreprise où je travaillais ayant été vendue précédemment, je me trouvais dans une entreprise où je n'étais pas vraiment à l'aise et je recherchais une autre activité. Et j'avais en responsabilité des ateliers de fabrication d'engrais. Et on recherchait à ce moment-là en Gironde un directeur pour une entreprise qui produisait du compost pour des champignonnières. Je pensais que fabriquer des engrais et fabriquer du compost pour des champignonnières, ça pouvait être assez proche. Ça n'avait rien à voir, mais j'y suis allé et j'ai appris parce que j'y connaissais rien au départ.
Nous y voilà. Vous avez parlé du compost, de cet engrais très particulier qui est utilisé pour la production des champignons de Paris. Alors, est-ce que vous pouvez... Alors, il y a beaucoup de choses d'abord. Pourquoi cette installation dans les anciennes carrières qui existaient déjà au XIXe siècle, bien sûr, qui jouxte Périgueux en direction d'Angoulême.
On utilise des carrières pour la production de champignons parce que les carrières ont une climatique, c'est-à-dire un climat qui convient bien à la culture du champignon, et ça permet de cultiver du champignon sans apport d'énergie extérieure. Par contre, aujourd'hui en France, il est cultivé relativement peu de champignons en carrière ou en cave. On emploie plutôt le terme cave pour la culture du champignon. La plupart des cultures se font dans des bâtiments climatisés parce que, la culture en cave est un frein à la mécanisation.
Du fait de la disposition des lieux, bien sûr, ça se comprend facilement. Mais est-ce que le fait de cultiver dans des cavernes, des caves plus exactement, qui sont à la forme géométrique dans ces anciennes carrières, est-ce que ça vaut à vos productions une qualité particulière, outre les autres qualités sur lesquelles nous allons revenir bientôt ?
Ça nous permet de cultiver les champignons à des températures un peu plus basses que les autres. Ça va créer une climatique qui va être spécifique à la cave et ça peut avoir une incidence sur le goût du champignon. Par contre, en matière de goût du champignon, la variété y est pour beaucoup. Actuellement en France, la plupart des gens pensent que le champignon de Paris, c'est du champignon blanc, alors qu'il existe d'autres variétés de champignons de Paris qui sont des variétés brunes et qui ont un goût qui n'a rien à voir avec le champignon blanc. Là-dessus, je pourrais en dire un peu plus, si vous voulez.
Bien entendu, on va en parler. Mais auparavant, nous allons revenir sur le compost. Alors, ce compost qui est utilisé dans vos champignonnières, comment est-il produit? Et à partir de là, on va ensemencer ce compost, comment on va le préparer d'abord, rapidement, et puis on va ensemencer pour arriver à cette production très spécifique qui est la vôtre.
Alors, j'apporte une petite précision par rapport à notre production. Notre production est, depuis 1999, est à 100% une culture biologique, ce qui nous impose un cahier des charges particulier au niveau de la préparation du substrat. Donc, on dit compost, on dit substrat, ça veut dire que c'est le sol sur lequel va pousser le champignon et qui va nourrir le champignon. Pourquoi ? Parce que le champignon est un végétal qui n'a pas capacité à synthétiser la matière organique à partir du gaz carbonique de l'air. Il doit aller chercher sa source de matière organique dans des végétaux morts. Donc tout le travail que l'on va faire en matière de compostage, ça va être de travailler les matières premières que l'on va utiliser pour les rendre digestibles par le champignon d'une part, et aussi éliminer à l'intérieur tout ce qui peut gêner le champignon de Paris, c'est-à-dire des concurrents, des parasites. Alors les parasites, ça peut être des champignons, ça peut être des bactéries, et tout ce travail de préparation qui est très précis et très complexe va nous amener à obtenir un substrat qui va être électif du champignon de Paris.
En plus de la matière végétale qui compose le compost, il y a quand même du fumier, des engrais, de l'engrais naturel.
Je vais vous citer les différentes matières premières que l'on utilise pour faire du compost. On utilise essentiellement de la paille. Cette paille, elle va être obligatoirement certifiée biologique. Nous utilisons des fumiers, fumier de volaille, fumier de cheval. Le fumier de volaille provient obligatoirement d'exploitations certifiées biologiques. Nous utilisons également du fumier de cheval et nous sommes très limités à des petites quantités car le cahier des charges ne permet que 25% de matières premières non biologiques. Et trouver du fumier de cheval certifié biologique, ça se trouve pas, il faut le dire, sous le pied d'un cheval. C'est relativement rare et on n'en trouve pas.
Comment faites-vous alors? Vous êtes sans cesse en train de traquer le bon fumier de cheval. Vous avez des fournisseurs attitrés. Comment vous débrouillez-vous?
Nous avons des écuries attitrées chez qui on ramasse le fumier de cheval et on complémente ce fumier de cheval avec du fumier de volaille que l'on va chercher dans des élevages de cultures biologiques.
La fabrication, la préparation du compost que vous avez évoqué, décrite, c'est quelque chose quand même de complexe. Vous êtes obligé de faire des analyses périodiques pour vous assurer que tous les nutriments sont bien là, dans les bonnes proportions. Comment ça fonctionne techniquement ?
Alors techniquement, la première opération à faire, c'est de faire démarrer la fermentation de la paille. L'ensemble des fermentations que l'on va faire vont s'étaler sur un mois. Entre le moment où on va commencer à travailler nos premières matières premières et le moment où on va ensemencer, il va se passer environ un mois. On a deux semaines de compostage en cave, ventilée, et une semaine de fermentation dirigée et contrôlée. Donc, avant de commencer nos fermentations, il faut que l'on... Par exemple, la paille qui est très sèche, on a de la paille qui est entre 10 et 12% d'humidité. La première opération à faire, ça va être d'ouvrir les bottes de paille, de les déliter et de les arroser. Et on les arrose avec du purin, de manière à amener en même temps des bactéries qui vont démarrer les fermentations plus rapidement. Donc on délite cette paille, on a un tas de paille. Ensuite, on va avoir un mélange de fumier de cheval et de fumier de volaille. On va mélanger ce fumier de cheval et ce fumier de volaille à la paille dans une opération que l'on appelle le mélange paille-fumier. Et après
alors il y a encore plein d'opérations qui se déroulent, j'en croise la documentation que j'ai consultée.
On va rentrer ce tas que l'on aura constitué, on va le rentrer dans une case de fermentation ventilée. Donc là, on a un tas de mélange qui va être mis dans une case. On va ventiler à environ 50 mètres cubes par tonne de compost en fractionné, c'est-à-dire qu'on va ventiler 6 minutes, on va arrêter de ventiler pendant 12 minutes, de manière à oxygéner le tas d'une part et à le faire monter en température. Donc ce tas, on va le retrouver le lendemain à 65 degrés, voire 70 degrés. À ce moment-là, on augmente le temps de pause de manière à augmenter la température. Par contre, ce tas qu'on a mis en place, on va le retourner tous les 3 jours, c'est-à-dire qu'on va le sortir de la case, le rentrer dans la case, ce qui veut dire que pendant 2 semaines, on va utiliser 2 cases et on va faire 3 retours sur notre tas de compost. Ce tas de compost, ensuite, il est prêt à rentrer en salle de fermentation dirigée et contrôlée. Donc on a vu que dans cette première partie, le compost montait à température entre 75 et 80 degrés, avec des ventilations relativement faibles. Quand on va rentrer en salle de fermentation dirigée et contrôlée, là on va avoir des ventilations de l'ordre de 150 à 200 m3 par tonne de compost, de manière à bien ventiler le compost, à bien l'aérer, et on va faire monter le compost à une température de 60 degrés dans toute la masse pendant 8-10 heures. Cette température de 60 degrés, elle va être destinée à quoi ? Elle va être destinée à éliminer les champignons parasites qui peuvent rester, les bactéries parasites. C'est une opération d'assainissement du compost. Précédemment, on a déjà fait de l'assainissement, mais on avait des parties qui étaient à 70 degrés, d'autres qui étaient à 30 degrés. C'est pour ça qu'on fait différentes opérations de mélange, de retourne, etc., de manière à avoir un produit qui soit homogène et qui soit suffisamment dégradé pour le champignon, pour l'utiliser. Donc, dans notre fermentation dirigée et contrôlée, on appelle cette première partie à 60 degrés la pasteurisation. En fait, ce n'est pas une pasteurisation. Le terme pasteurisation, c'est un terme qui est employé dans le jargon des champignonistes. Et ensuite, cette masse de compost, on va la descendre à 48-50 degrés, là où elle va rester pendant 4 jours à 48-50 degrés, de manière à mettre en place une flore spécifique qui est une flore qui va être non agressive par rapport au champignon de Paris, qui va se faire consommer par le champignon de Paris, et on dit qu'elle est élective par rapport aux champignons de Paris. si cette phase de 4 à 5 jours, on la faisait dans d'autres conditions, c'est-à-dire qu'on l'a fait par exemple avec de la ventilation, mais en absence d'air, avec excès de CO2. À ce moment-là, on va sélectionner un compétiteur du champignon qui s'appelle le chétonium, qui va prendre la place du champignon quand on va vouloir l'ensemencer. On va avoir pendant l'incubation un développement d'une belle moisissure blanche. Par contre, ce ne sera pas du champignon de Paris, ce sera du chétonium. Et au lieu d'avoir des champignons, on va avoir des petites pustules vertes qui vont pousser et on n'aura pas de champignons. Mais enfin, ça n'arrive pas ou très rarement, simplement sur des petites surfaces parce que on sait ce que ça peut donner.
Alors, donc, au terme de toutes ces opérations qui sont même assez très, très complexes, hein, qui demandent certainement beaucoup de manutention, vous avez un compost ou un sol qui est approprié à la culture du champignon. Alors, à quel moment intervient l'ensemencement qui va aboutir justement à l'épanouissement de ces magnifiques surfaces de petits champignons magnifiques qu'on voit sur les photos?
Alors, l'ensemencement intervient au moment de la vidange de la salle de pasteurisation ou de fermentation dirigée et contrôlée. On vide la salle, on la vide dans un épandeur et au passage, on ensemence, on déverse le mycélium qui est la semence de champignons et qui va ensuite envahir le compost. Donc dans cette opération, on vide le compost dans un épandeur, on ensemence au passage et on remplit les conteneurs de culture qui suivent derrière. Et ces conteneurs, ils s'en vont en incubation. Chaque conteneur fait 2,30 m de long par 2,40 m de long, pardon, par 1,30 m de large. Et on en remplit entre 250 et 270 par semaine.
Et sur quelle épaisseur alors ces surfaces, ces conteneurs?
Ces conteneurs, il y a une épaisseur d'environ 22 cm de compost. Oui.
Alors, votre entreprise produit, si j'en crois les chiffres que j'ai vus, à peu près 400 tonnes de champignons annuels. Alors, ça correspond à quelle récolte mensuelle, moyenne? Et est-ce qu'il y a une saisonnalité de la récolte du champignon?
Alors, parler de saisonnalité de la récolte de champignons, je vais vous dire non et je vais vous dire oui aussi. On peut cultiver du champignon toute l'année en quantité importante. Par contre, on a quand même une nette baisse des ventes pendant les mois d'été. C'est-à-dire qu'entre, par exemple, le 14 juillet et le 15 août, on a la capacité à vendre la moitié de ce qu'on va vendre pendant un mois de mars. Donc, on diminue nos productions pendant l'été de manière quand même assez significative, de manière à ne pas avoir trop de champignons pendant ces périodes. Sinon, là, il n'y a aucun souci pour cultiver du champignon au niveau climatique, il n'y a aucun souci pour cultiver du champignon toute l'année, mais c'est la loi du commerce qui nous empêche d'en cultiver trop pendant l'été.
Oui, parce que vous avez un milieu de culture qui est quand même homéotherme, hein. On peut dire que c'est presque toujours la même température dans vos caves.
Alors dans les,
un peu de choses près.
Dans les caves, on a une température quasi constante. Dans les parties qui ne seraient pas cultivées, on a une température qui est de l'ordre de 12,5 à 13 degrés. Par contre, dans les caves de culture, la présence du champignon, qui va générer de la chaleur, fait monter la température de l'ambiance à des températures de l'ordre de 15,5 degrés, 16 degrés.
Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous donner une définition et un aperçu de cette opération très particulière et qui porte ce nom bizarre de gobetage?
Alors, le gobetage est une opération qui intervient après l'incubation. C'est-à-dire, on a ensemencé le compost. Pendant 2 semaines, le mycélium va se développer dans le compost, va envahir le compost. Et à ce moment-là, on va poser ou déposer à la surface du compost une couche de terre qu'on appelle dans notre jargon terre de gobetage. Cette terre de gobetage, en ce qui nous concerne, c'est un gobetage très traditionnel, c'est-à-dire qu'il va être composé d'environ 65% de calcaire, du calcaire grossier, et de tourbe. la tour servant de réserve en eau pour le champignon. Donc, cette terre de gobetage, elle est destinée à faire quoi ? Elle est destinée à créer un milieu qui va mettre en difficulté le mycélium pour l'obliger à fructifier par réaction de protection de l'espèce. Parce que le champignon, on le laisserait dans son compost à une température de 24 ou 25 degrés, il continuerait à se développer, à faire de la mousse, et il ne ferait pas de champignon. L'objectif, c'est de faire du champignon qu'on va pouvoir cueillir et qu'on va pouvoir manger, et les ces champignons qu'on va pouvoir cueillir et qu'on va pouvoir manger, ce sont les fruits du champignon, c'est l'organe de fructification du champignon et de reproduction.
Donc les champignons sont des fruits, ils peuvent être considérés comme des fruits, parce que si vous n'appliquiez pas ce gobetage, vous auriez une prolifération stérile du mycélium. Mais ce mycélium, où est-ce que vous le récoltez et comment le récoltez-vous et comment est-il produit ?
Alors ce mycélium est produit dans des laboratoires spécifiques et c'est une technique tout à fait particulière que la production de mycélium et je ne suis pas trop compétent pour en parler. Donc on achète le mycélium tout produit. Et si vous voulez, c'est un métier très spécifique et il arrive quelquefois à des producteurs de mycélium d'avoir également des accidents de production et de produire des mycéliums ou stériles ou qui vont avoir des mauvais comportements en culture malgré toute la rigueur qu'ils peuvent avoir.
Comme ça arrive aux marchands de graines de culture ou de graines florales. Mais alors... Cette production, elle est quand même, votre production, elle est quand même très particulière parce que vos champignons ont une allure qui est, comme vous le disiez tout à l'heure, n'est pas celle de ce qu'on attend du champignon de Paris classique, avec ses petits chapeaux d'un beige rosé là, qui sont tout à fait sympathiques. Qu'est-ce qui fait l'excellence de cette production qui, encore une fois, répétons-le, comme vous l'avez signalé pour toutes les étapes de la production, est une production bio. Donc, vos champignons sont des champignons de Paris, mais qu'est-ce qui les différencie des autres ?
Alors, le champignon que l'on cultive, c'est un champignon brun. La variété que l'on cultive s'appelle Heirloom, et c'est une variété qui est aujourd'hui cultivée dans le monde entier, puisque tout le monde cultive ce champignon. Il a un goût très particulier et tout à fait différent du champignon blanc. Il a des qualités de conservation intéressantes, dans la mesure où un champignon brun qui est cueilli dans de bonnes conditions et conservé dans de bonnes conditions, va pouvoir se conserver une semaine, voire 10 jours. Le même champignon blanc, conservé dans de bonnes conditions, au bout de 3 jours, il n'a déjà plus le même aspect. Par contre, ce champignon brun, il a une autre qualité qui fait qu'en bio, on cultive essentiellement des champignons bruns, parce que ces champignons bruns sont naturellement, on ne va pas dire résistants, mais sont moins sensibles à un certain nombre de maladies du champignon que les champignons blancs. Par contre, ils sont nettement moins productifs, ils sont très sensibles à des variations de qualité de substrat, et si vous voulez, entre un champignon blanc et un champignon brun, la différence de potentiel de production peut être facilement de l'ordre de 20%, voire plus.
Donc ce que vous gagnez en qualité, la qualité de vos produits, elle est sous-tendue par des préparations, une préparation du terrain très, très, très complexe, et puis aussi par des rendements qui sont inférieurs aux rendements des champignons de Paris habituels, classiques.
Il y a des rendements qui sont inférieurs, et si vous voulez, le champignon blanc, pour être productif, il faut qu'il soit protégé contre les maladies, alors que le champignon brun est un peu plus résistant et il est mieux adapté à la culture en bio. Et vouloir cultiver du champignon blanc, alors là je parle pour moi, je dis vouloir cultiver du champignon blanc en bio, c'est pour moi une hérésie parce que ces champignons sont trop sensibles aux maladies existantes.
Maintenant, nous allons très rapidement évacuer les d'autres détails concernant votre entreprise. On a parlé de la production globale. On a parlé de la saisonnalité de la production, qui est atténuée pendant la saison d'été. Votre entreprise, elle utilise combien de personnes qui sont employées à quelle tâche? Comment se répartit, par exemple, l'effectif qui s'occupe du compostage et l'effectif qui s'occupe de la cueillette, du conditionnement, etc.
On emploie environ 45 personnes. Sur ce personnel, vous en avez la majorité, environ 25, qui va être employé essentiellement à des tâches de cueil des champignons. Les autres vont être utilisés à des tâches de manutention et de préparation de compost, et également aux tâches d'expédition.
Votre personnel, c'est un personnel jeune, c'est un personnel qui se maintient dans cet emploi. Est-ce que vous avez des cas de personnes qui souffrent de claustrophobie en travaillant dans vos caves, par exemple?
La claustrophobie ne permet pas aux gens qui sont atteints de ce souci. Ces gens ne peuvent pas travailler, c'est impossible de travailler en cave.
Et ça vous arrive, ça vous est arrivé d'avoir des personnes qui ne pouvaient pas s'habituer à travailler comme ça en cave?
C'est arrivé à une personne, ouais. Et qui était vraiment très motivée. Et elle a insisté pour travailler, elle a dû insister pendant quelques jours et elle a dû arrêter, elle ne pouvait pas s'adapter absolument. Par contre, ça m'est arrivé également d'avoir un visiteur que j'ai emmené en cave et que j'ai dû ressortir très rapidement parce qu'arrivé au bout de la cave, il ne m'a pas prévenu qu'il était claustrophobe.
Il voulait sortir. Hein.
Et j'ai dû le sortir, mais... les caves ne sont pas du tout adaptées pour des gens claustrophobes, ils doivent absolument rester à la porte. Hein.
Un dernier détail chiffré, vous avez quelle superficie de cave exploitez-vous à peu près en gros?
On exploite environ 3 hectares de cave. Quand je dis 3 hectares, c'est la partie qui est consacrée essentiellement à la culture. Puisqu'on a un couloir de circulation qui fait environ 1 km de long et les caves de culture se situent le long de ce couloir.
Sorte d'annexe, alors 1 km quand même, hein. c'est loin. Hein. Mathurin, le temps file très vite, comme vous avez pu le voir, puisqu'on est presque arrivé au terme de cet entretien. Est-ce qu'il y a une vie pour vous en dehors du champignon? Est-ce que vous avez des loisirs et comment occupez-vous ces loisirs? Est-ce que vous avez des passions et quelles sont ces passions?
Disons que le champignon ou l'activité de champignon laisse relativement peu de temps pour les loisirs parce que c'est une activité très, très prenante. Par contre, dans une autre vie, j'ai fait beaucoup de sport et ma passion actuelle, ce serait plutôt la pêche à la mouche. Avec l'avènement de la canne à mouche simple ou même du grand fouet.
Mathurin, merci beaucoup de ces détails passionnants sur votre activité, l'activité de Champidor, qui, rappelons-le, est production de champignons de Paris par la très ancienne champignonnière de Chancelade. Merci.
Madame Morille, qui est si gentille, pense qu'il est de bon ton d'aimer un pied de mouton. Mais son mari grogne, se renfrogne, car il est, ça c'est trop fort, une trompette de la mort. Champignon, marron, mon champignon, si bon mon champignon, nous danserons sous les liserons.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.
Elle m'a dit que bientôt j'habiterai un château. Grand merci la belle pour cette nouvelle. Je m'en vais danser en rond avec 30 mousserons. Champignon, marron, mon champignon, si bon mon champignon, nous danserons sous les liserons, sous les liserons.